Les temps électriques, l'occasion de s'interroger sur l'avenir de la justice que nous nous préparons. Alors que le 20 novembre marquait l'anniversaire de l'adoption par l'ONU de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'actualité de ces dernières semaines ne cesse d'alerter sur l'explosion d'un phénomène inquiétant, la pédocriminalité commise de plus en plus en ligne. La thématique de cette émission est donc particulièrement essentielle. J'ai la chance de recevoir pour cet échange deux professionnels de l'association e-enfance, menant ce combat au quotidien. Véronique Béchu, bonjour.
Bonjour.
Votre parcours témoigne d'un engagement très fort au service de l'enfance. Vous êtes actuellement à la direction de l'Observatoire de la lutte contre le harcèlement et les violences numériques faites aux mineurs. Avant de rejoindre e-enfance, vous étiez commandante de police engagée dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Vous avez dirigé le groupe central des mineurs victimes, occupé le poste du chef du pôle stratégie de l'OFMIN, l'Office mineur. Vous avez publié en 2024 un ouvrage livrant un témoignage très fort. « Derrière l'écran, combattre l'explosion de la pédocriminalité en ligne », publié aux éditions Stock. On en parlera. Avec vous, Inès Legendre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pour votre part chargée de plaidoyer de l'association e-enfance. Un rôle déterminant, stratégique aussi, auprès des institutionnels, des politiques. Vos regards seront très complémentaires. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. La pédocriminalité en ligne, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Temps électriques.
Tout pédocriminel fait partie de la société. Ces individus-là sont les personnes que vous côtoyez au quotidien.
J'ai vu l'ampleur des abus ne cesser d'augmenter. J'ai vu l'âge des victimes diminuer de plus en plus.
Sans frontières ni régulation, Internet a entraîné l'explosion d'un fléau mondial, la pédocriminalité.
Maintenant, les pédocriminels se regroupent en communautés sur le web. Et c'est encore plus dangereux, car ça renforce leurs pulsions et leurs fantasmes.
Derrière leurs écrans, les enfants sont des proies bien réelles pour des prédateurs sans limite, qui profitent d'un anonymat sans cesse renforcé par la technologie.
Je ne comprends pas comment ces PDG de l'industrie de la tech peuvent se réveiller tous les matins en se disant « C'est génial, tout va bien ».
Eh bien non, tout ne va pas bien. On le comprend en vous écoutant dès les premiers mots de ce documentaire, Véronique Béchu, documentaire intitulé « Pédocriminel, la traque » et diffusé sur Arte en juillet 2024. La pédocriminalité, de façon plus large, les abus et violences sexuelles sur mineurs, n'est tristement pas un phénomène récent, mais le développement d'Internet a incontestablement donné un nouveau terrain de chasse aux agissants pour y dissimuler leurs actions, y attirer leurs proies et se créer toute une communauté. Les chiffres peinent à traduire en temps réel l'évolution impressionnante de cette criminalité. 2009, si l'on se fie aux données des Nations Unies, il y avait déjà 750 000 abuseurs d'enfants en ligne. 2021, plus de 10 ans après, 85 millions d'images et de vidéos pédocriminelles avaient été découvertes dans le monde, selon les chiffres annoncés par la commissaire européenne Ylva Johansson. Et ces chiffres sont exponentiels puisqu'en 2024, l'augmentation du nombre de sites hébergeant ces contenus était déjà en augmentation de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Bref, tout cela donne le tournis. Derrière ces chiffres, des infractions aux multiples facettes, consultation d'images, pédopornographiques, fixation, enregistrement de ces images, diffusion ou encore de nouvelles incriminations derrière des faits de grooming, de sextorsion et d'autres dont on parlera ensemble. Au travers de ces qualifications, ces chiffres traduisent aussi le fait que cette criminalité prend des formes qui se diversifient. Des délinquants usant de nouveaux outils pédocriminels mis à disposition sur des sites de e-commerce. Comment ici ne pas évoquer le cas récent des poupées sexuelles à l'apparence enfantine vendues par la plateforme Shein. Des prédateurs sexuels maniant aussi l'intelligence artificielle, désormais pour appâter leurs proies, générer sans cesse de nouveaux contenus qui seront de nouvelles monnaies d'échange avec cette communauté. Et en face, eh bien ceux que l'on nomme les survivants, des victimes de plus en plus nombreuses, de plus en plus jeunes aussi. L'âge moyen décroît vertigineusement. En septembre 2022, il était de 4 ans. Entre septembre 2022 et février 2023, l'unité dans laquelle vous exerciez, Véronique Béchu, vous l'écrivez, était visiblement saisie d'affaires sur des nourrissons de quelques mois. Le droit permet-il aujourd'hui de lutter et d'endiguer l'explosion de cette pédocriminalité en ligne? On en parle dans un instant avec nos invités. Sonore symbolique pour débuter cet échange avec cet extrait du morceau intitulé Children, composé par Robert Miles en hommage aux enfants victimes de la guerre en ex-Yougoslavie. Les jeunes victimes dont on va parler ensemble, ce ne sont pas celles d'une guerre bien sûr, mais celles d'un fléau s'étendant également à l'échelle mondiale. Alors pour débuter, je vais me tourner vers vous, Véronique Béchu, pour faire un point juridique, un point concret, factuel sur ce dont on va parler ensemble, la pédocriminalité en ligne. Parce que c'est plusieurs phénomènes, parmi eux le grooming, sextorsion, des mots que j'ai évoqués, des phénomènes qui sont souvent, parfois liés. De quoi s'agit-il ?
Alors pour revenir déjà avant le contexte juridique, ce serait bien de faire un contexte un peu plus général. Et ce que j'aimerais souligner, c'est que ce sont vraiment des violences systémiques et ça c'est quelque chose qu'il faut appréhender immédiatement, c'est-à-dire que c'est un enfant sur cinq actuellement qui est victime de violences sexuelles, que celle-ci ait lieu en ligne ou pas. Et en fait, ce que j'aimerais aussi pointer du doigt, c'est que il n'y a pas deux types de pédocriminalité. Il n'y a pas la pédocriminalité en ligne, celle qui est faite derrière l'écran, qui est exercée par des individus à l'autre bout de la terre. Non, c'est vraiment une violence de proximité. Et les individus d'ailleurs qu'on a interpellés au sein de l'office mineur, c'est des individus qui sont au bout de notre rue. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il y a ce continuum de violence. La plupart du temps, dans les dossiers où les enfants sont de plus en plus jeunes, puisque vous avez cité le fait qu'on avait des victimes dont l'âge moyen baissait, ce sont des faits d'inceste ou commis dans le cercle de confiance de l'enfant qui sont filmés et diffusés. Ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, effectivement, il y a eu l'arrivée d'Internet dans les foyers, il y a eu une démocratisation de l'utilisation de cet outil, il y a une hyperconnexion de l'enfance maintenant, donc qui augmente le risque pour ces enfants d'être victimes. Et donc les pédocriminels se sont adaptés à ces nouvelles technologies, les pédocriminels se sont adaptés à ces nouvelles victimes et effectivement des phénomènes ont vu le jour. Vous citiez la consultation de contenu pédocriminel, c'est une infraction qui est arrivée avant le 21e siècle.
l'article 227-23 du code pénal. Et depuis, il y a eu une masse d'articles qui sont entrés dans le code et qui ont permis effectivement aux services répressifs et à la justice de pouvoir poursuivre ces individus. Alors on a longtemps attendu que les phénomènes pédocriminels entrent dans le code pénal. Vous avez cité le grooming, la sextorsion, mais il y a de la corruption de mineurs en ligne également, dont on n'avait pas l'infraction dans le code pénal. Il y a une masse de phénomènes que nous ne pouvions pas correctement poursuivre. Et en fait, tout a été légiféré lors de la loi Billon du 21 avril 2021, qui a permis l'entrée dans le code pénal des phénomènes pédocriminels en ligne. Donc, qu'est-ce que le grooming ? Alors, c'est assez simple. C'est le fait de solliciter un mineur sexuellement en ligne, en le manipulant, en le mettant en confiance. La plupart du temps, ce sont des individus qui se font passer eux-mêmes pour des mineurs pour pouvoir accéder à ces enfants, soit via les jeux en ligne, soit via les réseaux sociaux, là où sont les enfants de plus en plus jeunes, de pouvoir être amis et obtenir à un moment donné un contenu à caractère sexuel. Ça, c'est la première phase d'un phénomène qui régulièrement et de plus en plus découle sur un second que vous appelez, alors, qui est passé dans le langage commun comme la sextorsion qui est plutôt une extorsion sexuelle de mineurs. Alors, à des fins soit sexuelles, c'est-à-dire pour obtenir d'autres contenus, soit à des fins financières pour obtenir de l'argent. Parfois même, ça peut aller jusqu'à l'obtention d'une rencontre physique pour un passage à l'acte dans le réel. Et donc, sur la base de ce premier contenu obtenu de la part de l'enfant, eh bien, un chantage va s'opérer pour obtenir ce pourquoi il a groomé, l'individu a groomé l'enfant. Donc, c'est extrêmement infractant pour le mineur, puisque d'une part, il pensait parler à un ami, il pensait même parfois à un petit ami ou une petite amie. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé ce premier contenu, partiellement ou totalement dénudé. Donc première chose, ils ont été abusés dans leur confiance. Et ensuite, ils font l'objet d'un chantage. Souvent, les enfants ne savent pas vers qui se tourner. Et c'est extrêmement important de savoir que ça arrive à de très, très, très nombreux enfants, qu'il faut absolument savoir accueillir leurs paroles, qu'il faut savoir connaître les outils qui permettent de faire cesser instantanément ce qui se passe. Donc vous avez bien évidemment les signalements sur les plateformes, puisque la menace est de diffuser le contenu sur les plateformes. Donc, il faut impérativement être en lien avec les plateformes. Il faut impérativement déculpabiliser l'enfant et aller déposer plainte. Et si c'est très compliqué de faire ça, vous avez le 3018 au sein de l'association e-enfance, qui est une plateforme que vous pouvez appeler ou avec laquelle vous pouvez chatter via l'application 3018 et qui permet de pouvoir immédiatement faire supprimer les contenus et avoir une aide et des conseils pour judiciariser ce qui s'est passé. Donc un accompagnement au dépôt de plainte ou encore un signalement. On peut faire des signalements au procureur de la République selon l'article 40 du Code de procédure pénale. Donc ces phénomènes ont pris une ampleur énorme. Avant que je quitte l'office mineur, en 2 ans, on avait eu une augmentation de 460% des signalements de sextorsion. Et chez e-enfance, en une année, on a eu une augmentation des sollicitations de parents ou de mineurs qui ont augmenté de 74%. Donc c'est vraiment le phénomène à l'heure actuelle le plus usité par les pédocriminels pour obtenir facilement du contenu. Et il faut savoir maintenant qu'avec l'intelligence artificielle, ces phénomènes évoluent encore plus puisqu'il n'y a même plus besoin d'exercer une phase de grooming qui peut être assez longue et fastidieuse pour le pédocriminel. Ils vont aller chercher des contenus sur les réseaux sociaux des enfants ou même des parents qui diffusent des images de leurs enfants. Ils vont les transformer en du contenu sexuel via des applications d'intelligence artificielle de déshabillage. Et ils vont directement envoyer ce contenu à l'enfant en disant « j'ai ce contenu, je veux que tu m'en produises d'autres, sinon je diffuse à l'ensemble de tes contacts ». Donc ce sont des phénomènes qui mutent avec les nouvelles technologies actuelles et dont l'intelligence artificielle. Et ce sont également des phénomènes qui ne sont plus seulement utilisés par des pédocriminels. En fait, maintenant, on s'aperçoit que de plus en plus de mineurs exercent ce type de comportement à l'égard de leur père. Or, dans la loi du 21 avril 2021, tous les phénomènes visés parlent de majeurs sur des mineurs. Donc en fait, à l'heure actuelle, alors que cette loi ne date que d'il y a 4 ans, on est déjà obsolète quant à la poursuite possible des auteurs de ces infractions.
Alors, vos propos, ils permettent de cadrer effectivement l'échange qu'on va avoir à plusieurs égards sur le lien qui s'opère entre le numérique et le réel, sur ce process dans le cheminement et le traitement de ces infractions, du signalement à la plainte, ensuite à la phase judiciaire et aussi à l'IA, on en reparlera. Là, vous finissez sur la question de la poursuite et des investigations. Donc, je rebondis sur cette idée-là spontanément. Même si on parlera évidemment du clear web, du web accessible à tous ensuite, spontanément, on fait quand même le lien souvent dans l'esprit avec la question du darknet. On a le sentiment que beaucoup de conversations et d'échanges ont lieu sur des réseaux clandestins. Même sans parler du darknet, on a un problème qui est lié aux messageries chiffrées, type Telegram, où l'anonymat, évidemment, complique ici la question des investigations. Alors, cette question de l'enquête, comment le droit, la règle, comment on enquête sur ces infractions ?
Alors, d'une part, je comprends que pour une thématique aussi sensible qu'est la pédocriminalité, immédiatement on se dit tout se passe sur le web caché.
C'est souvent ce qu'on lit. C'est pour ça que voilà,
exactement,
on part du présupposé et on décrypte ensemble les choses.
Et c'est pour ça que c'est très bien de parler du darknet, mais en fait le darknet, c'est pas là où sont la majorité des pédocriminels. Et c'est vraiment important de le savoir. Alors effectivement, le darknet a permis à un moment donné à ces individus de pouvoir s'anonymiser et de pouvoir échanger en toute liberté. Alors les échanges, c'était, et ce sont toujours, hein, parce qu'il y en a encore sur le darknet, ce sont des échanges plutôt sous forme de forums de chat et d'échanges de liens de contenu. Mais en fait, c'est pas sur le darknet que vous pouvez voir en direct des sessions de violences sexuelles sur les enfants. Ce n'est pas sur les darknet que vous pouvez télécharger des contenus, parce que le darknet n'est pas fait pour ça. Et donc les pédocriminels font communauté sur le darknet, mais ce n'est pas là où ont lieu les échanges. Les échanges ont lieu sur d'autres services de télécommunication et principalement, c'est sur le clearnet. Donc, il faut déconstruire cette idée que le darknet, c'est là où sont tous les pédocriminels. Non, d'une part. Et puis, il y a eu, et vous l'avez souligné, les applications mobiles chiffrées qui ont été créées, qui sont devenues en fait notre utilisation quotidienne à tout un chacun et bien évidemment aux pédocriminels. Ce qu'ils avaient comme fonctionnalité et comme possibilité d'anonymat sur le darknet, ils l'ont sur les applications mobiles chiffrées avec en plus cette possibilité de rapidité d'échange, de possibilité de voir en temps réel des contenus, de pouvoir échanger des images, des vidéos. En fait, les applications mobiles chiffrées sont le nouveau darknet. Et tous les pédocriminels à haut profil de risque qu'on avait auparavant sur le darknet sont maintenant sur les applications mobiles chiffrées. Donc comment on enquête ? Bien évidemment, on va utiliser toutes les techniques d'enquête classique qu'un officier de police judiciaire détient, mais va falloir s'adapter en fonction du lieu d'échange. Donc, il y a des applications de détection en temps réel des échanges sur le ClearNet. Vous avez des techniques telles que l'analyse d'images. Quand on tombe sur des contenus qui nous sont signalés par des plateformes, eh bien, on va travailler sur l'image de manière à pouvoir remonter l'auteur et la victime. Et puis ensuite, sur les applications mobiles chiffrées ou le Darknet, on va utiliser une technique spéciale d'enquête que je ne vais pas pouvoir développer parce que légalement, je n'en ai pas le droit et que le but n'est pas de donner des filons pour pouvoir rester sous les radars aux pédocriminels. Mais l'enquête sous pseudonyme, quand on est formé et habilité par le procureur général de notre lieu de résidence d'exercice en tant qu'officier de police judiciaire, nous permet soit de nous faire passer pour un enfant, soit de nous faire passer pour un pédocriminel de manière à entrer directement en contact sous couverture avec eux et de pouvoir faire en sorte que l'on puisse caractériser la commission d'une infraction. Ce qui est extrêmement compliqué en fonction du degré d'anonymat et du degré de vigilance du pédocriminel et du personnage qu'on est. C'est-à-dire que ce sera beaucoup plus compliqué quand on est dans la peau d'un pédocriminel d'obtenir la caractérisation d'une infraction d'un autre pédocriminel puisque ce qu'on aimerait caractériser là, c'est des violences sexuelles sur les enfants, c'est-à-dire des passages à l'acte. Donc ce sont des abuseurs d'enfants, des violeurs d'enfants que l'on traque dans ces conditions-là. Alors que quand on se fait passer pour un enfant, là c'est des infractions plutôt du spectre délictuel, telles que de la corruption de mineurs, du grooming ou de l'extorsion sexuelle de mineurs. Et donc c'est assez facile de pouvoir caractériser ce type d'infraction. Il suffit de vous connecter en tant qu'enfant sur un forum et vous êtes en quelques secondes, en moins d'une minute en moyenne, vous êtes sollicité sexuellement par un individu. Donc ces infractions sont extrêmement faciles à caractériser.
Ils ont dit quand même que le code de procédure pénale encadre dans le cas de cette enquête sous pseudonyme. Ah bien sûr.
Alors c'est une loi de 2005 qui a été d'ailleurs créée sur notre thématique, c'est-à-dire que c'était un outil, et c'est toujours un outil extrêmement efficace dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Les premiers champs de compétences, c'était la pédocriminalité et lutter également contre le proxénétisme. C'était des violences sexuelles. Donc c'était les deux champs qui étaient visés par la loi encadrant l'enquête sous pseudonyme. Et puis ça s'est développé à tout type de criminalité maintenant, avec ce petit bémol au sein du droit ou de la législation française, c'est qu'il ne faut pas provoquer à la commission de l'infraction. On a une législation qui est totalement différente, par exemple, de celle des anglo-saxons qui, eux, peuvent provoquer à la commission de l'infraction. Nous, pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller frontalement vers l'individu pour lui demander des contenus. Il va falloir qu'il nous les envoie. Donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Et c'est en cela que c'est très délicat en fonction de la vigilance et de la volonté de garder son anonymat de l'individu.
Oui, cette frontière ténue, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Cette question de loyauté de la preuve, c'est quand même effectivement une contrainte aux investigations qui est assez présente et en vigilance permanente finalement pour le policier qui agit.
Bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est spécialement formé. Et parce que dès qu'il y a une suspicion de provocation à la commission de l'infraction, la procédure est taguée de nullité et on ne peut pas poursuivre l'individu.
Alors avant de passer la parole à Inès Legendre, j'ai juste une dernière question à vous adresser pour ce panorama sur le contexte, que, comme vous l'avez dit. Vous avez, quand je vous ai demandé de parler du Darknet, évoqué cette communauté en ligne, mais vous le soulignez, la très grande majorité des contenus finalement sont sur le ClearNet. Et dans votre ouvrage, vous utilisez pour mettre les deux en... pas en contradiction, mais pour les opposer, un phénomène qui est celui de l'individualisme par rapport à cette communauté. Qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement par individualisme que vous décrivez ?
Alors, on a souvent cette idée que les pédocriminels agissent en réseau, qu'il y a des réseaux, des gens qui s'entendent et qui s'organisent ensemble, etc. Alors, on pense souvent ça en termes de réseau de criminalité organisée. Ce n'est absolument pas ça. Et c'est ça que je veux vraiment indiquer. Quand je parle d'individualisme, en fait, je veux indiquer l'individualité de chacun. C'est-à-dire qu'ils sont chacun dans leur petit coin. Que pour certaines choses, ils font communauté, c'est-à-dire qu'ils échangent des bonnes pratiques, des lieux, des plateformes actuellement utilisées par les mineurs, etc., des moyens de mise en sécurité, les derniers articles parus dans la presse, ce genre de choses. Mais en fait, leur but ultime, c'est d'obtenir du contenu, donc des images, des vidéos, sans se dévoiler, mais même entre eux. Donc, ils ne vont jamais s'identifier entre eux, jamais s'organiser. C'est extrêmement rare quand ils se rencontrent physiquement. Et d'ailleurs, quand un tel réseau est démantelé, on en parle longtemps dans la presse, etc., parce que c'est extrêmement rare. Quand il y a des personnes qui sont poursuivies et condamnées au tribunal correctionnel pour de la détention, diffusion de contenu pédocriminel, ils sont seuls. On parle souvent d'un individu, et parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils vont juste échanger entre eux pour du contenu. Donc il n'y a pas de notion de réseau de criminalité organisée. Et donc cette velléité d'obtenir du contenu, ça, en fait, ça construit leur système. Pourquoi ? Parce que ils vont vouloir avoir une collection, le plus de contenu possible. Donc au départ, ils vont en trouver quelques images, quelques vidéos, ils vont échanger. C'est un troc, il y a très peu de monétisation de contenu. Ils vont échanger des contenus de même, entre guillemets, j'entends, qualité. C'est-à-dire qu'un contenu qui est connu sur la toile depuis très longtemps et qui circule longtemps, n'aura pas beaucoup de valeur au sein de la communauté pédocriminelle. Et plus le contenu sera récent, inédit, c'est-à-dire sans avoir jamais été diffusé ou très peu, donc pas détenu par beaucoup, plus ces contenus-là ont de la valeur. Or, pour pouvoir obtenir ce type de contenu qui est le Graal pour un pédocriminel, il faut pouvoir en envoyer à d'autres sous le système du troc. Donc en fait, ça incite un passage à l'acte, que ce soit par la voie du en ligne ou du physique. Ça incite au passage à l'acte sous grooming ou sextorsion, ou encore de violenter sexuellement les enfants de son entourage pour produire ce type de contenu et en envoyer. Et c'est en ça que on voit cette radicalisation du comportement pédocriminel chez les individus, parce qu'ils vont vouloir de plus en plus de contenu, ils vont vouloir de plus en plus de contenu de qualité, et donc à un moment donné, ils vont aussi devenir abuseurs.
C'est ce côté systémique que vous décrivez.
Exactement, et en plus, on s'aperçoit que les individus, quasiment un cas sur deux, va passer à l'acte physiquement en ayant débuté par une activité numérique pédocriminelle. Donc quand je dis que ça incite au passage à l'acte, c'est vraiment ça.
Alors Inès Legendre, maintenant je me tourne vers vous, je t'ai dit vos regards vont être complémentaires pour aborder un autre phénomène, terriblement difficile à endiguer aussi, qui est la réalisation d'abus désormais en live streaming. Alors ici on parle d'infractions sexuelles, d'agressions, de viols, même qui sont réalisés en direct, mais souvent à l'étranger, parce qu'en fait ils sont commandités depuis notre territoire, et c'est là que le lien se fait avec l'étranger. Comment on lutte contre ça? Comment on cible ce qui se passe hors de nos frontières? Que dit notre droit?
Alors, pour lutter contre ça, il y a plusieurs dispositions juridiques qui peuvent s'appliquer. Le premier fondement, ça va être la territorialité de l'infraction, donc en fait qui est posée à l'article 113-2 du Code pénal. Et la loi pénale, elle s'applique dès lors qu'un des faits constitutifs de l'infraction est commis en France. Et dans les cas dans les situations de live streaming, en fait, même si l'acte sexuel il est commis à l'étranger, la commande, la rémunération ou même la participation en tout cas la consultation, si elle est commise en France, et ben en fait ça va s'appliquer, en tout cas ça va rentrer dans la territorialité de l'infraction. Et en fait la jurisprudence elle est vraiment constante là-dessus, c'est que dès qu'il y a en tout cas, la jurisprudence retient régulièrement qu'une infraction qui est composite commise au moyen d'Internet est réputée en fait commise en France, dès lors qu'une action en fait y est localisée. Et à ce premier mécanisme, il va y avoir aussi la compétence extraterritoriale qui est particulièrement étendue en fait en matière d'infraction sexuelle sur mineurs, puisque l'article 113-6 du Code pénal autorise la poursuite de tout ressortissant français ayant commis à l'étranger un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement. Et de facto, en fait, toutes les infractions sexuelles commises sur mineurs entrent dans ce champ. Et depuis la loi de 2010, la double incrimination, elle a été supprimée. Donc la double incrimination, c'est le fait que l'infraction soit punie à la fois dans le pays où ça a été commis et aussi dans le pays, en tout cas enfin, la nationalité de l'auteur. Et donc ça a été supprimé pour que ces infractions puissent justement être poursuivies en France par un Français qui a commandité ou participé à ces faits, même lorsque le pays où se déroule l'acte ne dispose pas d'un cadre pénal équivalent. Et comme le rappelait Véronique justement sur la loi de 2021, en fait, le droit positif, il permet d'appréhender tous les comportements qui sont liés à cette forme de pédocriminalité itinérante. Et donc ce qu'on remarque, en fait, c'est que sur le fondement juridique, on est plutôt bien encadré, bien mis en place, mais ce qui est compliqué, c'est vraiment le volet probatoire. C'est comment on va aller les appréhender typiquement, quand ils sont à l'étranger, comment on les appréhende.
Et donc, ce volet étranger, je pense qu'on peut quand même le caractériser ici. Les pays dont on parle et qui, cette question de double incrimination que vous évoquez, par exemple, quand des faits se déroulent typiquement aux Philippines ou dans ce type de pays, la législation locale ne vient pas incriminer, comme nous le faisons nous sur notre territoire, ces agissements. C'est pour donner un exemple concret de lieu auquel on pense, c'est pour ce type de situation. Je vous laisse continuer sur l'aspect probatoire sur cette difficulté.
Bah, tout à fait, c'était très bien que vous puissiez prendre cet exemple, puisque l'idée, c'est qu'il y a certaines conventions qui ont été mises en place entre la France et certains pays pour justement faciliter en fait l'appréhension en fait de ces pédocriminels et de faciliter en fait le travail entre les services judiciaires, les services d'enquête, pour que l'on puisse eh bien beaucoup mieux travailler avec à la fois le pays et le pays dans lequel est commis l'infraction et la France. Et sur ça, on peut citer certaines conventions qui ont pu être mises en place, mais dès les années 2000, comme la convention de Budapest sur la cybercriminalité, qui offre en fait un cadre d'entraide pour accéder aux données détenues par des fournisseurs étrangers et qui peuvent procéder aussi à des conservations rapides de ces données. Donc ça facilite en tout cas le transfert d'informations et c'est essentiel d'être aussi très très rapide sur ce volet-là.
Alors peut-être que, c'est une remarque et une question que je me pose pour avoir entendu récemment cette idée-là. Les preuves numériques qui nous, sont maniées et utilisées et précieuses dans le cas des dossiers, vous l'évoquiez Véronique Béchu, parfois elles sont beaucoup plus insuffisantes ou elles laissent plus dépourvues quand on est sur des infractions qui se commettent comme ça à l'étranger. J'entendais, et corrigez-moi si je me trompe à cet égard, que parfois elles ne suffisent pas dans le sens où un témoin direct, un témoin oculaire est nécessaire sur place pour venir constater l'infraction et venir la poursuivre dans le pays dans lequel elle s'opère. Et ça, c'est quelque chose que j'ai récemment découvert. J'évoquais les Philippines, mais d'autres...
Aux Philippines, c'est
ça,
très prégnant.
Alors que nous, on parle beaucoup de la preuve numérique dans nos dossiers aujourd'hui, on voit ici une limite qui est claire, quoi.
Alors, c'est effectivement aux Philippines notamment, et leur législation leur impose un flagrant délit dans les violences sexuelles faites aux enfants. Et donc, juste le contenu tourné, lors des violences ne suffit pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on travaille avec ces pays-là, il faut impérativement que dans nos dossiers, on puisse leur donner des informations qui leur permettent de pouvoir intervenir immédiatement et interpeller les individus pour que leur propre procédure puisse tenir.
Effectivement, bon, je ferme cette remarque-là, mais elle est très interpellante quand même. Alors, je reviens à une autre thématique que vous avez abordée, c'est la question de l'IA pour les modes opératoires, puisque les images d'abus sexuels sont de plus en plus générées par l'intelligence artificielle. C'est un nouveau moyen d'opérer ces infractions. Inès Legendre, qu'est-ce que ça change dans la façon d'organiser vos actions au sein d'e-enfance ? Je rappelle que vous êtes chargée de plaidoyer pour l'association e-enfance. Est-ce que vous recevez plus d'appels de mineurs qui sont victimes d'IA ? Comment on les aide ?
Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que sur les... Par exemple, si on prend le cas d'une image détournée, d'une sextorsion qui est une image détournée à travers un outil d'intelligence artificielle, c'est qu'en tout cas, sur les conséquences que ça a sur un enfant, c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire que le fait que cet enfant voit une représentation de lui nudifiée, c'est exactement la même chose que s'il avait fait lui-même le contenu. Et en fait, on a énormément d'appels qui concernent précisément ce registre et des photos qui vont être détournées avec intelligence artificielle. Et donc, il a fallu aussi adapter un petit peu la prévention et les conseils que l'on peut donner, d'une part aux enfants, puisque ça va beaucoup être en fait des images qui vont être détournées, qui vont être prises tout d'abord sur leurs réseaux sociaux. Donc, dès lors qu'ils partagent des photos d'eux, que ce soit sur une story, que ce soit sur un post, etc., ces photos-là, elles vont être prises et elles vont être détournées. Et là, particularité, c'est que ça va très très vite et les outils évoluent aussi extrêmement rapidement et donc on n'a même plus besoin d'avoir une photo où on peut voir un semblant de corps, des épaules ou autre, il n'y a même plus besoin de ça, c'est que maintenant les outils sont véritablement performants. Donc en fait, les conseils que l'on va prodiguer aux plus jeunes, c'est de sécuriser leur compte, de permettre aussi que personnes qu'ils ne connaissent pas puissent accéder à leur contenu, à leur message, bref, à n'importe quelle donnée personnelle qu'ils pourraient mettre en ligne. Et donc, on fait en sorte qu'ils soient véritablement alertes sur ces enjeux-là. Et en parallèle, il y a aussi les parents, puisque finalement, la diffusion de photos d'enfants, ça vient aussi à travers les parents sur la pratique qu'on appelle le charenting et par extension le charenting excessif. C'est-à-dire qu'on voit véritablement beaucoup de familles qui vont poster des photos constantes en fait, de leurs enfants en vacances, le matin, bref, dans leur vie quotidienne. Et bien souvent, ces comptes de parents, ils ne sont pas non plus encadrés, ils ne sont pas non plus paramétrés de manière à ce que le compte soit privé. Donc ça, c'est aussi des conseils que l'on prodigue auprès des parents à faire extrêmement attention, puisqu'en fait, ces images-là, en fait, c'est véritablement des niches d'or pour les pédocriminels. Et après, sur un volet un peu plus législatif ou tout du moins politique ou réglementaire, l'idée, c'est aussi, en tout cas sur les comptes mineurs, que les plateformes ont aussi un rôle à jouer et qui garantissent en fait par défaut que les comptes des mineurs soient privés pour évidemment bah, en fait finalement restreindre et freiner l'accès de contenu, de photos en fait aux pédocriminels.
Alors les plateformes, on va en parler dans un instant parce que c'est un des enjeux majeurs quand même de la question. Mais juste pour terminer sur la question de l'IA, là on parle de l'IA au service de l'infraction dans son mode opératoire, mais l'IA c'est aussi un moyen de lutter contre ces agissements. On a des outils de détection d'images et de propos à caractère pédopornographique qui commencent à se développer. Une précédente émission nous avait donné l'occasion de discuter avec Marc Polman de l'outil Perception, qui est un outil plutôt algorithmique, tant il nous le présentait, pour détecter, identifier des phrases typiques, par exemple, de pédopiégeurs, dans le but d'alerter sur ces infractions dont sont victimes les enfants. On a d'autres outils à l'étranger qui ont vu le jour. Je pense notamment au projet Arachnid, qui avait été développé en 2017 par le Centre canadien de protection de l'enfance. Véronique Béchu, sur cette question liée finalement à l'enquête aussi, quels sont les apports de ces outils d'IA ?
Alors, c'est...
Est-ce que c'est une aide aussi importante que la fragilité peut venir de l'IA dans ce qu'on entendait ?
La problématique, c'est qu'il y a une grosse distorsion entre l'utilisation de l'IA de manière totalement décomplexée par les pédocriminels, hors tout cadre légal évidemment, et parce que peuvent utiliser les services d'enquête. On est bien évidemment, tant la police que la gendarmerie tentent de développer des outils qui leur permettent d'avoir une facilité d'enquête, notamment dans le triage des images ou encore la détection de contenu. La problématique, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de cadre légal qui nous le permette. C'est-à-dire, on peut développer l'outil, mais on ne peut pas l'utiliser. Et quand bien même, encore une fois, je rappelle qu'une intelligence artificielle, ça s'apprend. On doit lui apprendre à reconnaître des contenus pédocriminels. Donc, on doit l'alimenter de contenus pédocriminels. Or, c'est interdit par la loi, même pour les services de l'État. Donc, il y a, encore une fois, un cadre d'enquête, un cadre légal à modifier, et c'est en cours.
Bah, effectivement, les outils que j'évoquais travaillent sur du texte, sur des échanges de communication, de SMS ou autre.
Parce que avec les contenus, ce n'est pas
voilà,
possible.
Voilà, parce que le contenu pose une question qui, vous avez raison de le souligner, est tout à fait différente. Alors, la question des plateformes, elle est centrale, Inès Legendre, puisque c'est aussi la question de leur... de leur contribution et aux investigations, mais aussi finalement au contenu qui se développe en leur sein, concrètement dans cet écosystème numérique aujourd'hui. Quelles sont les obligations que le droit actuel fait peser sur ces plateformes ?
Sur un volet réglementaire, il y a eu plusieurs textes successifs qui sont arrivés depuis le début des années 2000 avec la directive e-commerce, jusqu'au DSA, qui est entré en vigueur en 2024, qui en fait vont venir encadrer et renforcer les obligations des plateformes, et tout particulièrement lorsqu'on touche à des contenus illicites, typiques de la pédocriminalité, qui vont pouvoir circuler en ligne et circuler à travers leurs services. Et si on prend le plus récent, si on s'attache au DSA, le DSA a été fait de manière à ce que la protection des mineurs vraiment soit le cœur en fait du règlement et puisse diriger, encadrer tous les services des plateformes ou tout du moins doivent s'adapter à cette protection des mineurs et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et pour ça, le DSA va obliger les plateformes à certaines mesures, typiquement de mise en place de mécanismes de signalement accessibles et efficaces, parce qu'on voit très bien que c'est relativement compliqué de... En tout cas, je pense que pour un enfant de 13 ou 14 ans qui est déjà sur un réseau social, de pouvoir signaler un contenu, il faut que ce soit très facile, très accessible. Et ce n'est pas totalement le cas. Et c'est aussi pour ça que le DSA a prévu dans ce cadre-là, en fait, les signaleurs de confiance sur lesquels l'association e-enfance à travers le numéro 38 l'est et qui permet en fait, de dialoguer directement avec nous puisqu'on a un canal prioritaire avec les plateformes pour en fait retirer les contenus préjudiciables et ça comprend en fait tous les contenus liés à la sextorsion, le grooming, la pédocriminalité, des choses que l'on voit extrêmement régulièrement. Donc déjà ça c'était essentiel de permettre aussi à ces enfants d'avoir un point de contact en fait un focal qui permette de faire une transition très rapide avec les plateformes. En parallèle, il y a une pluralité d'obligations qui sont tout d'abord bien évidemment tout ce qui est la coopération avec les autorités judiciaires et administratives, la conservation des données, pertinentes justement liées au retrait des contenus. Et la principale finalement force aussi de, si on prend par extension et qu'on s'attache plus du tout au DSA, mais il y a eu un autre texte qui permet en fait là d'être vraiment au cœur de pouvoir lutter aussi contre les contenus pédocriminels. C'est une directive en fait qui est posée, un dispositif qui est une dérogation en fait à une autre directive qui est la directive e-privacy. En fait, c'est un règlement européen qui a été pris en 2021 qui autorise, mais sans la poser, à titre temporaire, l'usage de la technologie de détection et de signalement des contenus relatifs à des infractions sexuelles sur mineurs. Et en fait, ce qu'il faut comprendre avec cette dérogation, parce qu'elle fait toujours un petit peu peur, elle est toujours très très mal comprise, c'est qu'en fait, elle permet l'analyse automatisée des communications, mais uniquement pour les contenus relatifs à des infractions sexuelles sur mineurs. Et ce texte, il est très discuté. C'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, ça reste une dérogation qui a pu être étendue plusieurs fois et qui l'est là, jusqu'à avril 2026, il me semble. Mais cette dérogation a été essentielle en fait, pour pouvoir poursuivre, pouvoir appréhender en fait, ces infractions.
Effectivement, on touche ici à des sujets qui sont, qui polarise en fait les débats, les questions de protection de la vie privée, d'analyse du contenu des communications. Et au niveau européen, les propositions de règlement effectivement qui polarisent particulièrement le débat pour l'heure actuelle, c'est ce projet de chat control qui est d'aller encadrer cet échange et surtout d'aller s'assurer que le contenu ne véhicule pas des images à caractère pédocriminel. Par rapport aux angoisses et aux angoisses que ça cristallise, finalement, au regard de la vie privée, de l'atteinte à la vie privée, quel est votre regard là-dessus ?
C'est un texte qui suscite beaucoup de débats, tant sur un volet juridique que dans l'opinion publique, et à juste titre, puisque ça reste très cristallin et on oppose en fait véritablement finalement la protection des mineurs et une volonté d'aller vraiment plus loin dans cette protection, en tout cas face à la pédocriminalité. Mais ça peut s'opposer aussi à la compatibilité avec la Charte des droits fondamentaux qui est justement sur les detection orders, qui est donc vraiment sur la détection obligatoire. Et c'est là où le point est très très, très, très particulier puisqu'en fait, sur le plan juridique, le CISAM ou le CISAR, il va reposer sur trois piliers qui va être l'évaluation et la réduction des risques par les fournisseurs de services. Ça va être sur les obligations de signalement, de retrait et de blocage des contenus illicites ou de tout ce qui peut se trouver qui sont pas du tout légales. Et enfin, la possibilité, ça c'était dans la version initiale, justement d'ordonner la détection obligatoire de CISAM et de sollicitation de mineurs. Et c'est là où c'est pas véritablement passé, en tout cas dans toutes les discussions auprès des différents pays de l'Union européenne. Et sur l'état en fait des négociations, la présidence danoise du Conseil avait présenté en novembre dernier une nouvelle proposition de compromis qui en fait dispose maintenant d'un soutien suffisant finalement au sein du Conseil. Mais en fait, cette version, elle a été amoindrie, elle a été réduite. Et justement, sur ce point un petit peu particulier, et maintenant en fait, cette version, elle va permettre de supprimer elle supprime en tout cas les injonctions de détection obligatoire, donc vraiment ce point qui posait problème, et elle va maintenir uniquement le régime de détection volontaire qui est fondé en fait sur le règlement européen dont je parlais tout à l'heure et qui est valable jusque 2026. Et en fait, elle va ajouter aussi une garantie explicite de selon laquelle en fait aucune mesure ne peut conduire à une surveillance générale qui en fait ça bien évidemment logiquement interdite en droit de l'Union européenne. Donc les discussions sont en cours, ça a été un petit peu amoindri. Et maintenant, en fait, ça va être discuté sur un volet tripartite avec le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission pour permettre ou non l'adoption de ce texte. Mais ça reste quand même très, très, très fastidieux et on voit bien que qu'on arrive toujours à... En fait, l'évolution du numérique et l'apport du numérique dans la commission des infractions, elle va encore une fois s'opposer aussi à tout autre droit qui sont garantis dans l'Union européenne. Et on voit bien que c'est extrêmement compliqué de composer les deux.
Véronique Béchu, est-ce que vous voulez réagir sur ce rôle de ces entreprises de la tech, rapidement, dans cette lutte ?
Oui, bien sûr. Je pense que la lutte contre la pédocriminalité est un enjeu de société, que les entreprises de la tech et les plateformes du net ont clairement un rôle à jouer fondamental dans ce combat. Et que on ne peut plus à l'heure actuelle, maintenant qu'on connaît les dérives pédocriminelles et ce que font ces individus des technologies qui sont développées, on ne peut plus créer des outils qu'on laisse entre les mains d'enfants sans les avoir conçus pour qu'ils soient en sécurité, mais en amont. En fait, c'est ce qu'on appelle le safety by design et c'est une obligation, je pense, à l'heure actuelle de quand on réfléchit à un nouvel outil, à une nouvelle plateforme, à un nouveau réseau social ou à tout autre moyen de communication mettant en lien des adultes et des enfants, de les concevoir pour que la protection de l'enfant soit au cœur de la conception.
Et votre remarque, elle fait le lien avec justement l'un des cas d'actualité que j'évoquais sans le nommer tout à l'heure, la découverte de profils sur Vinted redirigeant vers des contenus pédopornographiques, ce qui a conduit la haute commissaire à l'enfance à saisir l'ARCOM. qui est l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. C'était il y a quelques jours pour une question qui est celle de la vérification de l'âge pour accéder à ces sites. Donc ça aussi, ça se conçoit en amont, j'imagine, sur des questions de vérification de l'âge. C'est une question qui revient régulièrement, comment on vérifie l'âge d'accès au site. Parce que là aussi, ça met en porte-à-faux un certain nombre de droits et libertés individuelles sur les méthodes de reconnaissance, de détection de l'âge de la personne qui se connecte.
Oui, tout à fait. Et c'est aussi le cœur du débat aussi du DSA, donc du règlement que j'évoquais tout à l'heure. Le DSA va imposer une vérification de l'âge. En fait, ce qu'il va faire, c'est il pose ça sur l'évaluation des risques. C'est-à-dire que pour toutes les plateformes qui vont offrir leurs services au sein de l'Union européenne, elles vont devoir faire une évaluation des risques. Les risques qu'elles vont pouvoir faire peser à la sécurité, à la santé, tous les risques qu'elles peuvent faire poser aux mineurs. Et à partir de là, s'il y a des risques qui sont véritablement importants, typiquement si on voit qu'il y a des contenus à caractère sexuel ou autre qui peuvent être trouvés sur leur service, ils vont devoir mettre en place un vrai contrôle de l'âge. Maintenant, la problématique réelle, c'est la technicité du moyen, en fait, de vérifier l'âge. Et c'est là aussi où il y a un gros lobbying de la part des plateformes qui estiment qu'il n'y aurait pas de contrôle qui soit véritablement adapté à la sécurité des données des utilisateurs. Mais on sait bien que c'est un débat qui finalement n'en est pas un et qui cache aussi tout ce qui est le modèle économique des plateformes, où il y a quand même une pluralité de mineurs. Enfin, la part essentielle, en fait, de ces plateformes, ce sont les mineurs. Et c'est là aussi où, en fait, ils choisiraient finalement, en mettant un contrôle de l'âge, de fermer la porte à des mineurs et donc de fermer la porte à une grosse part de leur marché. Et donc, en fait, il y a vraiment plusieurs débats dans un seul, c'est sur à savoir la technicité, quel dispositif on met en place pour contrôler l'âge, comment, parce que contrôler l'âge d'un majeur, c'est possible. En revanche, maintenant, contrôler l'âge d'un mineur, ça reste aussi tout particulier. Comment on le vérifie, quels instruments, quels documents, comment on vérifie ça, comment on différencie aussi un mineur de 13 ans d'un mineur de 15 ans. Mais c'est véritablement essentiel parce que à partir du moment où on arrivera à distinguer un mineur de 13 ans, un mineur de 15 ans, de 16 ans et d'un majeur, on pourra offrir en fait aux enfants des réseaux sociaux qui seraient véritablement adaptés à leur âge et qui seraient vraiment exempts de tout risque finalement pédocriminel ou de sollicitation illicite. Quoi.
Alors on arrive au dernier temps de cet échange. Pour une dernière question, plus optimisme, ou en tout cas des mots d'ouverture que je vous laisserai donner. On a beaucoup parlé de la lutte contre ces infractions et on a un peu déjà parlé de la question de la prévention. Mais si on revient sur ce sujet, quelles sont les actions du moment de l'association Ayez Enfance pour laquelle vous travaillez toutes deux, l'observatoire aussi dans lequel que vous dirigez, Véronique Béchu, pour venir sensibiliser les mineurs, pour venir les accompagner dans ces infractions qui les concernent.
Je vous laisse là. Alors, il y a un pôle prévention à l'association Ayez Enfance qui sensibilise, pas que les enfants, parce qu'encore une fois, il faut sensibiliser les enfants, mais il faut aussi sensibiliser leurs parents et les professionnels qui sont en contact avec des mineurs. Et donc, c'est en moyenne 200 000 sensibilisations par an. On aimerait vraiment monter en puissance, puisque toute personne sensibilisée est capable de détecter des situations problématiques, peut-être une victime en moins, et notamment de violences sexuelles en ligne. Donc c'est impératif. Enfin, moi, je milite depuis de nombreuses années, et même avant, quand j'étais au sein de l'Office mineur ou dans mon ancienne unité, le groupe central des mineurs victimes, je milite pour qu'il y ait une énorme campagne de sensibilisation portée par l'État, qui est un portage politique fort sur, on a besoin que les enfants, tous les enfants, tous les parents, tous les acteurs de la société soient au courant de ce qui se passe, en prennent conscience et aient les outils qui soient armés, en fait, pour pouvoir agir si jamais il se passe quoi que ce soit. C'est impératif. Et donc, c'est une des actions phares d'Ayez Enfance.
Est-ce que vous voulez compléter ? Votre rôle, il est complémentaire, je l'ai dit, vous, la chargée de plaidoyer, le rôle est fort.
Tout à fait, et puis pour rejoindre un petit peu, et comme vous le dites, compléter ce que dit Véronique, à l'association, on a deux pôles, donc vraiment le pôle prévention et le 3018, donc le numéro que l'on opère. Ce sont des actions de terrain au sein desquelles on va vraiment pouvoir s'appuyer sur des enfants, des parents, sur des situations réelles. Et en fait, ces situations réelles, elles vont aussi nous permettre de nous questionner sur comment on les protège et quels sont aussi les manquements ou les vides juridiques qui peuvent s'appliquer. Et à partir de ces situations concrètes, au sein du plaidoyer, en fait, ce qu'on va faire, c'est pouvoir transformer ça. On va pouvoir aussi alerter les pouvoirs publics, alerter le législatif, le réglementaire, et même aussi à un niveau européen, et faire en sorte, en fait, de renforcer ce cadre, ou tout du moins d'apporter en fait un environnement numérique vraiment sûr et adapté aux mineurs. Et donc en fait, le rôle, il est très très complémentaire avec toutes les missions de l'association, c'est du terrain et de l'alerte, et puis de provoquer un véritable le changement pour les mineurs.
Et bah merci à vous deux infiniment pour cet échange et bah pour l'ensemble de ces actions que vous menez au quotidien.
Merci, à vous. Merci beaucoup.
Cet échange sur cette comptine de Yann Tiersen. Et aussi avec une lecture tirée d'un autre extrait de votre ouvrage, Véronique Béchu, que vous allez reconnaître, pour vous faire réagir ensuite au regard de l'actualité. Le gardé à vue n'est pas le seul à se coucher. Ces supports numériques parlent également, ils racontent la tendance collectionneuse du babysitter, sa manie de classer les images reçues d'autres pédocriminels comme celles issues de sa production personnelle intitulée du nom de ses victimes. Cela nous aide à déterminer à combien ces dernières se chiffrent. Parmi elles, je découvre que son neveu de 6 ans en fait partie. Je les entendrai toutes, ultérieurement, sous la direction d'une juge d'instruction. Une dizaine de petites filles de 3 à 7 ans, parfois des fratries, et le neveu en question. Un tableau de chasse qui fait froid dans le dos et qui montre un comportement de prédation bien installé. Il est placé en détention provisoire, puis condamné à 5 ans d'emprisonnement. Même derrière les barreaux, il ne semble pas prendre la mesure juste de ses actes. Il sollicite, dans le cadre de sa future réinsertion, l'accès à une formation CAP Petite Enfance, qui lui aurait permis de travailler en crèche. Il tente d'entrer en contact par courrier, heureusement intercepté par un magistrat vigilant, avec ses victimes pour qu'elles lui envoient des dessins pour égayer un peu les murs gris de sa cellule. Aujourd'hui, il est libre. Un nouveau dossier le concernant patiente sur mon bureau, parmi de nombreux autres. La problématique de la récidive reste un vaste enjeu. Cette problématique, la récidive, elle résonne avec l'actualité du moment. Les écoles de la ville de Paris font face à plusieurs affaires de pédophilie depuis le début de l'année. Face à ça, on peut lire, on peut entendre dans les médias des réactions de citoyens réclamant une vérification plus stricte sur les antécédents à caractère pédopornographique lors de l'embauche des professionnels de l'enfance, avec des revendications parfois sur la mise en place d'un fichier des auteurs d'infractions sexuelles qui serait accessible au grand public. Alors évidemment, ce n'est pas le sens de notre législation pour l'heure, ce n'est pas l'encadrement de nos fichiers existants, mais c'est sur ce point que je voudrais avoir votre réaction finale. Face à cette question de la récidive, dont on n'a pas parlé dans l'émission, comment répondre à ces inquiétudes? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus face à cette récidive? Alors, effectivement, je me tourne vers vous, Véronique Péchu, c'est votre extrait, c'est dans votre ouvrage.
La récidive est un vrai sujet dans cette thématique. On n'a aucun chiffre, en fait, jamais aucune étude n'a établi le taux de récidive en matière de pédocriminalité. Alors, il y a deux choses. D'une part, il faut effectivement améliorer l'encadrement et la vérification d'honorabilité des personnels qui sont en contact avec des enfants, mais pas seulement dans la protection de l'enfance, hein, dans tout individu, homme ou femme, au contact d'enfants, que ce soit à titre professionnel ou bénévole. C'est en cours. Maintenant, on a les textes. Encore faudrait-il les appliquer. Je ne pointe du doigt personne, mais enfin, on ne peut pas embaucher quelqu'un dont on sait que légalement on doit vérifier l'honorabilité et le casier judiciaire vierge de toute condamnation pour pédocriminalité. On ne peut pas l'embaucher sans avoir à vérifier ces éléments-là. C'est du bon sens. Et puis, je pense que il y a vraiment un travail à faire. Et en ça, les CRIAFS, qui sont les centres ressources des intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, sont des structures qui sont extrêmement utiles. Et il faut vraiment, je pense, et ça a toujours été mon sujet aussi, si on ne s'occupe que des victimes, on traite que la moitié du problème. Il faut impérativement axer aussi nos politiques publiques sur la prise en charge des auteurs et qu'il y ait des suivis corrects, que ce soit psychologique ou psychiatrique, enfin qu'il y ait vraiment cette dimension de prise en charge, d'accompagnement mis en place par les politiques publiques. On ne pourra pas s'en sortir sinon.
Qui nous écoutez d'avoir suivi cette nouvelle émission des Temps électriques. J'y ai reçu aujourd'hui Véronique Béchu, directrice de l'Observatoire de lutte contre le harcèlement et les violences numériques faites aux mineurs au sein de l'association e-Enfance, ancienne chef du pôle stratégique de l'OFMIN, avec Alinès Legendre, chargée de plaidoyer au sein de l'association e-Enfance. Une émission préparée et enregistrée avec l'aide de Léo Bardot à Rango. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission sur le site d'Amicus Radio. À très bientôt.